Que feriez-vous, madame, monsieur, si l'on vous prévenait que l'un de vos amis intimes en veut à votre bonheur et même à votre vie, ainsi qu'à celle de vos enfants, qu'il va s'acharner à ruiner votre santé physique, psychique, intellectuelle et morale, qu'il sera peut-être cause d'une mort précédée d'une atroce agonie. Le laisseriez-vous accomplir paisiblement une telle œuvre? Non, n'est-ce pas? Vous prendriez sans attendre toutes les mesures nécessaires pour l'éloigner de vous et l'empêcher de vous nuire. Madame, monsieur, cet ennemi mortel existe. En ce moment même, il est comme chez lui dans votre foyer. Vous l'associez à vos travaux et à vos plaisirs. Vous cherchez auprès de lui un réconfort aux heures de fatigue ou de peine. Au moindre instant de détente, vous lui faites signe pour qu'il vous rejoigne. Ce traître, souvent, ne vous quitte pas d'une semelle. Ce traître, c'est votre cigarette, c'est votre cigare, c'est votre pipe. C'est ce que vous fumez peut-être maintenant. C'est la cigarette que vous venez à peine de jeter ou que vous allumerez tout à l'heure, au prochain instant de détente, précisément. Mais penserez-vous encore à l'agrément de cette détente le jour où vous connaîtrez les angoisses de l'étouffement qui accompagne le terrible cancer du poumon? Car voici bien la première, la plus grave menace, le cancer, qu'il soit de la langue, de la gorge, des poumons, de l'estomac et même du duodénum, compte au nombre des fruits infernaux de cette plante empoisonnée qu'est le tabac. Savez-vous qu'il y a de 10 à 30 fois plus de cancer du poumon chez les gros fumeurs que chez les non-fumeurs? Le nombre de cigarettes fumées et le taux de mortalité par cancer du poumon augmentent parallèlement. Voulez-vous savoir pourquoi? Je ne demande certes pas mieux que de vous éclairer. L'action cancérogène de la fumée de tabac est due avant tout au goudron, les muqueuses des bronches étant particulièrement sensibles à ce dernier. La fumée est due à une combustion incomplète de matières organiques. Les substances volatiles passent dans le courant de la fumée sans altération. Les substances non volatiles subissent des dégradations pyrolytiques plus ou moins marquées. C'est à partir de ces produits de décomposition que se forment, par pyrosynthèse, les cancérogènes et les co-cancérogènes. Parmi les 240 produits de la combustion du tabac, il en est 7, dont le fameux benzopyrène, dont l'action cancérogène est aujourd'hui unanimement reconnue. Savez-vous que si vous fumez 20 cigarettes par jour, vous déposez sur vos poumons en un an environ 840 cm3 de goudron contenant le benzopyrène? Savez-vous par ailleurs que votre cigarette contient environ 4% de glycérine, laquelle, en brûlant avec le tabac, produit de l'acroléine, l'un des gaz irritants les plus puissants employé pendant la Première Guerre mondiale? On a même trouvé des traces de polonium radioactif dans la fumée de tabac. Mais oui, madame, monsieur, rien que cela. Allez-vous consentir à faire de vous-même des gazés et des atomisés? Et je ne fais que glisser pour ne pas vous lasser avec trop de détails scientifiques. Sans toujours aller jusqu'au cancer des poumons, ou avant d'en arriver là, vous pouvez être certain que vos organes respiratoires vont payer de plus d'une façon le faux plaisir que peut vous offrir votre dangereux ami. Tout d'abord, sournoisement, il sabote l'une des défenses naturelles de l'organisme, les cils vibratiles, qui tapissent les voies respiratoires et dont l'action, quand elle peut s'exercer normalement, consiste à recueillir au passage toutes les impuretés et à les réexpédier en direction de l'œsophage, où elles seront avalées, puis neutralisées et éliminées. Le tabac exerce une action inhibitrice sur ces cils. Les bronches et les alvéoles, dépourvus de leurs sentinelles, sont alors à la merci de toutes les particules nuisibles, jusqu'aux plus cancérogènes. Faut-il s'étonner alors de l'altération des tissus, de leur épaississement en particulier, que le microscope montre à l'évidence? Faut-il s'étonner de la toux chronique des fumeurs, de leur respiration courte, de leur voix rocailleuse, de leur bronchite chronique, de leur emphysème pulmonaire. Et il est bon de souligner que chaque altération tissulaire diminue la capacité des muqueuses à résister aux produits toxiques. Et puis franchement, madame, trouvez-vous agréable de piquer une quinte de toux accompagnée d'un échauffement du visage qui fait tourner votre maquillage? Ne remarquez-vous pas que cette affreuse voix de fumeuse diminue le charme d'une femme? Et vous, monsieur, avez-vous réalisé quel objet de dégoût vous pourriez être pour ceux qui vous verraient cracher dans la rue? Le fumeur, la fumeuse ne sont jamais ni vraiment propres, ni vraiment raffinés, ni vraiment bien élevés, quel que soit par ailleurs leur niveau social ou le montant de leur compte en banque. Ce ne sont pas davantage, malgré les apparences, des gens capables de jouir vraiment des plaisirs de la vie. Le tabac diminue l'acuité de leur goût et de leur odorat. Les nuances subtiles des parfums, comme celles des aliments, leur échappent en grande partie. Je ne vous ai pas encore parlé de la nicotine, celui de tous les poisons contenus dans le tabac, dont le nom vous est le plus familier. C'est elle, la nicotine, qui vous conduit à désirer fumer toujours davantage. Voyons un peu ce que vous pouvez lui devoir. Il est aujourd'hui démontré qu'elle est une cause directe de la sclérose coronaire, donc une des causes de cette sclérose des vaisseaux nourriciers du cœur. Elle peut aggraver un infarctus cardiaque préexistant, et même le provoquer dans le cas où la sclérose coronaire s'est installée. Si l'on prend l'électrocardiogramme d'un gros fumeur, on constate toujours une altération du myocarde, qui est, vous le savez, un muscle cardiaque essentiel. Si cela vous cause quelques surprises, c'est que vous connaissez encore mal la nicotine. Il s'agit là en effet d'un toxique extrêmement violent, comparable à l'acide cyanhydrique ou acide prussique, et inscrit d'ailleurs au tableau A des produits vénéneux. Et ce qui rend le fumeur coupable à l'égard d'autrui, c'est que la nicotine de sa cigarette va intoxiquer toute personne qui se trouve dans la même pièce que lui, même si cette personne ne fume pas elle-même. Et je ne parle pas sans indignation de ces inconscients criminels qui n'hésitent pas à fumer en présence d'un malade, d'un vieillard, d'un enfant, d'une femme enceinte, intoxiquant ainsi l'enfant, un être dont le pauvre petit cœur, le fait a été démontré, se met à battre plus vite, trop vite, si sa mère doit séjourner dans un local enfumé. C'est d'ailleurs tout le système circulatoire qui souffre de l'usage du tabac, et cela de deux manières. Tout d'abord à cause des poisons que le tabac contient. Ensuite, parce que le fumeur est un insuffisant respiratoire et que, comme tel, il ne permet pas à son sang d'absorber suffisamment d'oxygène, alors que ce sang est chargé, du fait du tabac, d'un excès d'oxyde de carbone. Les maladies des artères coronaires, c'est-à-dire des artères qui entourent le cœur, sont de 63% plus élevées chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Les réponses cardiovasculaires sont fortement touchées. Si vous allumez une cigarette, l'apport du sang à vos mains va décroître de moitié. Et cet effet durera près d'une heure. Rien d'étonnant à ce que les fumeurs soient aussi bien souvent des frileux. Cette déficience de la circulation sanguine peut aller jusqu'à l'artérite et à la terrible maladie de Bürger. Si grave parfois, que la gangrène peut nécessiter l'amputation d'un ou de plusieurs membres. Résumons-nous, et même répétons-nous, tant la chose est importante. Le tabac joue un grand rôle dans le développement de l'hypertension artérielle, de l'artériosclérose, de la tachycardie, du spasme coronarien, de l'angine de poitrine. Il existe une sénescence tabagique précoce due à trois effets principaux du tabac sur le système neurovasculaire. Premièrement, l'augmentation du rythme des oscillations. Deuxièmement, l'augmentation ou le déclenchement des réponses à l'excitation des systèmes sympathiques. Troisièmement, la détermination d'une vasoconstriction artérielle et capillaire. Nous verrons plus en détail tout à l'heure l'action du tabac sur le système nerveux. Mais je voudrais d'abord vous parler de ce qu'il fait à votre système digestif. Nous avons déjà vu que l'habitude de fumer était une cause certaine du cancer de la lèvre. Car ce cancer apparaît à l'endroit même où les fumeurs de pipe ont l'habitude de tenir leur bouffarde. L'habitude de fumer est aussi une cause du cancer de la bouche, du larynx, de l'estomac, de l'œsophage, etc. On lui doit aussi de très nombreux ulcères, à l'estomac ou ailleurs. Je m'en vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Il était une fois un homme qui présentait tous les symptômes d'un ulcère au duodénum. Cet ulcère était même visible à la radio. Quand on opéra le malade, on ne trouva rien. La raison, elle est bien simple. On lui avait interdit de fumer et son ulcère avait disparu spontanément. 3 mois plus tard, se sentant très bien, il se remit à fumer et l'ulcère revint aussitôt. Cette fois-ci, ses médecins lui ordonnèrent de s'abstenir définitivement. Il eut la sagesse d'obéir et n'eut plus jamais d'ulcère. C'est une histoire strictement vraie. Si le tabac semble calmer la sensation de faim, c'est parce que la nicotine ralentit et réduit les sécrétions et les contractions de l'estomac qui provoquent cette sensation. La salive du fumeur, chargée en abondance de goudron et de nicotine, contracte les petits vaisseaux sanguins qui courent à la surface de l'estomac. Les muscles de l'estomac, alors privés de sang, réagissent mal. Insensibilisé, le fumeur perd l'appétit. En outre, sa salive irrite et enflamme les muqueuses de son estomac et les produits de la combustion du tabac entravent l'action des ferments digestifs. Ils s'allient à la salive déglutie et viennent bloquer la désintégration des aliments, irritant ainsi la paroi stomacale au point de troubler sa fonction de sécrétion et sa mobilité. Le fumeur peut souffrir de distension gazeuse de l'estomac, de dyspepsie. Son foie augmente de volume et devient plus sensible. Et je ne mentionne qu'en passant les stomatites, les aphtes, les gingivites, les leucoplasies buccales, les rhinopharyngites catarrhales, les œsophagites chroniques qui peuvent sortir de votre paquet de cigarettes ou de votre pipe, comme autrefois les maux de la boîte de Pandore. en aspirant la fumée, vous détruisez, pour chaque cigarette que vous grillez, 2 mg de vitamine C. Or, cette vitamine est celle qui stimule l'activité intellectuelle et physique. Elle a une action protectrice sur l'ensemble du système nerveux. Elle est la vitamine anti-fatigue. Cette destruction d'une si précieuse substance explique pourquoi, fumeur, vous êtes si souvent fatigué le matin, déprimé dans la journée, découragé et dégoûté de tout le soir. L'assombrissement de votre humeur, de votre caractère, le peu de joie que vous éprouvez à vivre, ont souvent pour cause principale l'intoxication par le tabac. Vous croyez fumer pour soulager votre tension nerveuse ? Fatale erreur, puisque ce soulagement ne peut être que temporaire, le fait de fumer augmentant au contraire la nervosité. Le tabac est un toxique nervin. C'est un toxique des ganglions sympathiques intrathoraciques. Aussi est-il à juste titre accusé de commettre de nombreux méfaits dans le domaine du système nerveux, névralgie, polynévrite, dépression, vertige, troubles mentaux, irritabilité, perte de mémoire. Influant également sur les organes des sens, il est responsable parfois de troubles tels que les amblyopies, certaines rétinites, les névrites acoustiques et les otites. La cataracte et le glaucome lui doivent aussi quelque chose. Tel gros fumeur peut présenter l'aspect d'un grand morphinomane et se trouver dans un état de demi-stupeur. Son sens moral est anesthésié, sa capacité professionnelle amoindrie. Voudriez-vous, madame, monsieur, en arriver là ? Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre, après ce que je viens de dire, que le tabac met votre intelligence en danger. Les vaisseaux sanguins du cerveau se rétrécissent et perdent leur élasticité sous l'influence de la nicotine. L'alimentation du cerveau baisse en quantité et en qualité. Les effets toxiques du tabac, le fumeur est dans un léger état d'hypnose. La stimulation que semble apporter le tabac n'est qu'artificielle et momentanée. Elle est suivie d'une torpeur qui va appeler une nouvelle dose de poison. Bref, comme l'a dit de façon lapidaire une sommité américaine, le docteur Mendenhall, il est évident que le tabac ruine notre système nerveux. Résultat, la mémoire faiblit, l'attention a de la peine, de plus en plus de peine à se fixer. La pensée se transforme en rêverie et ne se concrétise plus en acte. La conscience du moi s'hypertrophie et aboutit souvent à l'égoïsme. La volonté est amoindrie, la lucidité également, et la capacité de travail tout autant. Sur 200 étudiants de l'école polytechnique, dont 46 étaient fumeurs, près de 70% des non-fumeurs ont passé leurs examens avec succès, contre moins de 20% seulement des non-fumeurs. Cela mérite réflexion, n'est-ce pas ? Ceux qui ont cessé de fumer proclament que jamais ils n'ont mieux travaillé, et la qualité même de leur travail confirme leur dire. L'impuissance, la frigidité, la stérilité n'ont parfois pas d'autre cause que l'intoxication par le tabac. À ce sujet, monsieur, parlons un peu plus intimement, si vous le voulez bien. J'aimerais attirer votre attention sur la menace que le tabac représente pour votre puissance sexuelle. Vous aimez les données scientifiques sûres, émanant d'autorités reconnues. Alors, voici ce que dit d'abord le docteur Hirschfeld, directeur de l'Institut de sciences sexuelles de Berlin. Les modifications toxiques qui interviennent dans la composition du sang influent sur le processus de formation des hormones sexuelles. Dans certains cas, la puissance sexuelle peut être restaurée simplement par suppression des cigarettes. Voilà ce que dit le docteur Hirschfeld. une autre voix autorisée maintenant, celle du docteur Lentz, sexologue. Plus il fume, plus le fumeur devient nerveux. Son impuissance, peu accentuée d'abord, s'aggrave. Sa nervosité augmentant, il essaie, en fumant, de se calmer. C'est un cercle vicieux. Et maintenant, vous, madame, voulez-vous me permettre de vous parler comme un vieil ami? Oui, n'est-ce pas? J'ai déjà fait une allusion à l'incompatibilité qui existe entre votre beauté et l'habitude de fumer. Le tabac abîme votre teint, gâte vos dents. Il vous vaudra des rides prématurées. Le tabac tue votre parfum. Il rend âcre votre odeur corporelle et il obscurcit votre voix. Mais il y a plus grave, madame, beaucoup plus grave. Voici les faits. Il se passe, je crois, de commentaires. Chez la femme qui fume, on a remarqué que les avortements, les naissances d'enfants mort-nés ou prématurés, sont plus fréquents que chez la non-fumeuse. La fumée de tabac semble produire une malnutrition du fœtus. La moindre cigarette fumée par la mère augmente le rythme cardiaque de ce dernier. Une étude menée à l'université de Sheffield, tout à fait récemment, a montré que 4 enfants sur 1000 grossesses mouraient du fait de l'habitude de fumer de leur future mère. Et que, chez les femmes ayant une tension artérielle de 15-10 ou au-dessus, la proportion de grossesses perdues par avortement, accouchement prématuré, mort-né, serait de 31% pour les fumeuses au lieu de 14% chez les non-fumeuses de même tension artérielle. Bref, l'enfant de la fumeuse risque de naître taré ou sensibilisé à de dangereuses affections. Les statistiques prouvent qu'un enfant sur 2, né d'une mère qui fume durant sa grossesse, meurt dans la petite enfance. On n'a pas craint d'écrire qu'il s'agissait là, tout simplement, d'un infanticide. Voudriez-vous, madame, charger votre conscience d'une telle responsabilité? Enfin, j'aimerais encore vous rendre attentif, madame, monsieur, au fait que le tabac peut être rendu responsable de certains cas d'anémie musculaire, de faiblesse générale, de fatigue continuelle des muscles volontaires. Les chiffres sont utiles. Ils aident à préciser les idées. En voici donc quelques-uns. D'après le rapport américain sur le tabac, pour ceux qui fument moins de 10 cigarettes par jour, le taux de mortalité est de 40% plus élevé que pour les non-fumeurs. Pour ceux qui fument de 10 à 19 cigarettes par jour, cet accroissement est de 70%. De 20 à 39, il est de 90%. Et au-dessus, de 120%, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé. Voici la statistique des morts par cancer du poumon pour 100 000 habitants. Non-fumeurs, 10. Anciens fumeurs ayant cessé de fumer depuis 10 ans et plus, 24. Anciens fumeurs ayant cessé de fumer depuis moins de 10 ans, 64. Fumeurs continuant à fumer, 112. Il nous reste une question à examiner ensemble, c'est celle des filtres. Peut-être en m'écoutant, vous êtes-vous simplement dit, en effet le tabac est dangereux, mais je m'en vais prendre les précautions nécessaires en achetant des cigarettes avec filtre. Je me dois donc d'attirer votre attention sur le fait que vous vous endormiriez ainsi dans une fausse sécurité. Le filtre représente déjà un aveu, celui de la nocivité du tabac. Mais le filtre réellement efficace serait d'un prix trop élevé et supprimerait le goût de la cigarette. les filtres effectivement utilisés par les fabricants ne retiennent qu'une minime partie des substances nocives, en moyenne 10 à 20%. Il existe aussi des filtres qui ne retiennent rien du tout. En réalité, il est plus dangereux, dans bien des cas, de fumer des cigarettes avec filtre que des cigarettes sans filtre. Et ceci, pour 3 raisons au moins. Pour que leurs clients continuent à trouver le même goût à leurs cigarettes, a écrit un enquêteur sérieux sur ce sujet, les fabricants, pour la plupart, ont été amenés à utiliser des tabacs de qualité plus forte, donc produisant plus de goudron, donc plus dangereux du point de vue cancérogène. Le même enquêteur écrit d'autre part, « Les fumeurs impénitents, se croyant à l'abri de tous les dangers, à cause justement de la présence du filtre, n'hésitent pas à fumer plus de cigarettes, absorbant ainsi plus de nicotine et plus de goudron. » Et puis, que faites-vous de la fumée qui se répand dans l'air et que vous respirez? Et que votre entourage respirera lui aussi, même s'il ne fume pas. Le ministère de la Santé suédois a décidé de fixer un signal danger, invitant le fumeur à jeter son mégot lorsque celui-ci est de 47 mm pour les cigarettes à bout filtre ou de 23 mm pour celles qui n'en ont pas. C'est reconnaître que les premières sont plus dangereuses que les secondes. Le véritable bénéficiaire du filtre, n'est-ce pas le fabricant? Tout cela est fort bien, allez-vous dire. Mais c'est si difficile d'arrêter de fumer. Permettez-moi, sur l'autre disque, de vous montrer que cette démarche est beaucoup moins terrible qu'on ne le croit. Si l'on s'y prend de la bonne façon. Ce que je vais maintenant vous indiquer.